Matthieu chapitre 11, verset 25. Vous avez envie d'écouter la parole de Dieu? Vraiment, vous avez envie? Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je le relis s'il vous plaît, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Vous connaissez aussi la dernière invitation de l'Apocalypse au chapitre 22, quand Jésus dit « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut. » C'est la dernière invitation dans le dernier chapitre de la Bible. « Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Est-ce que quelqu'un veut ce matin? Je lisais ce matin l'évangile de Matthieu, justement, et je regardais comment, quand Hérode s'est rendu furieux, parce que, vous savez, il avait magouillé pour pouvoir tuer le Fils de Dieu, Jésus. Et en fin de compte, un ange avertit Joseph pour qu'il fuit en Égypte. Donc, il n'a pas pu le trouver, bien sûr. Et il a ordonné le massacre de tous les enfants de 2 ans et en dessous. Et il nous est dit que lorsque cela est arrivé, Rachel, qui représente bien sûr les femmes juives, ont refusé d'être consolés. Et encore, ça correspond à ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que Dieu ne nous forcera pas. On peut refuser la guérison. On me dit, mais c'est pas possible. Vous vous rappelez cet homme, malade depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda, à qui Jésus va poser la question, « Veux-tu être guéri ?» Ça ne serait pas dans la bouche de Jésus, on pourrait dire, mais c'est presque comique. Le Seigneur sait très bien qu'on peut être dans un temple et ne pas vouloir entendre une prédication, oui, participer à la communion fraternelle, oui, peut-être que déjà quelqu'un dit, oh, mais moi, Matthieu 28, je le connais par cœur. Alors, comment cela se fait-il que nous soyons encore fatigués? Je ne parle pas de la fatigue du jour que nous aurons ce soir à 21h parce que nous aurons fait telle ou telle activité. Je ne parle pas de la fatigue du jour, qui est une fatigue saine et normale. Je parle de fatigue et de poids spirituel qui est là et que nous n'arrivons pas à prendre la victoire. Vous vous rappelez dans la parabole de la parole d'Édimine, quand ils ont dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Ça n'a pas beaucoup changé, c'était des croyants. « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Dans une autre parabole, la parabole des deux fils, vous vous rappelez, quand, c'est des paraboles que Jésus a données. Vous vous rappelez, Dieu donne une parabole et il y en a un qui dit « Non, je ne veux pas. » Et l'autre dit « Oui, je veux. » Et puis après, il y a un changement d'attitude, celui qui avait dit non, il dit oui, et celui qui avait dit oui, il dit non, pour expliquer que l'on peut changer justement, que l'on est versatile. Mais Dieu respecte celui qui dit oui, je veux, ou non, je ne veux pas. On le voit tout le long de la parole de Dieu, et sachez bien que s'il y a une chose que Dieu ne fera pas, il ne nous forcera jamais. Je vous l'avais déjà dit, mais je me souviens, il y a quelques années, j'étais intervenu pendant une réunion de prière parce que quelqu'un priait avec beaucoup de ferveur, « Seigneur, force-moi à faire ta volonté. » Alors moi, je me suis quand même levé, je dis, écoutez, cette prière-là, Dieu ne l'exaucera pas. Ce n'est pas possible. La volonté de Dieu, nous choisissons ou nous choisissons de ne pas la faire. Qu'est-ce que nous voulons? C'est une question sérieuse. qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons qu'il règne sur nous? Que ton règne vienne, prière universelle, connue de tous les croyants du monde, quelle que soit leur obédience. Que ton règne vienne. On peut chanter en boucle ce beau chant que l'on chante souvent, que règne à moi, Dieu puissant, règne à moi. On peut le chanter, c'est un très beau chant, avec une très belle mélodie. Mais si je n'obéis pas, je peux le chanter pendant 10 ans, Dieu ne règnera pas pour autant. À partir du moment où j'obéis, Dieu règne. Jésus ne force personne, personne. Je voudrais que nous le comprenions bien. Ce n'est pas parce qu'on est là que le Seigneur va nous forcer à recevoir ses instructions. Vous connaissez Jacques comme il dit, mais écoutez, ne vous bornez pas à écouter, mais écoutez et mettez en pratique la parole de Dieu. J'écoute, et peut-être que Dieu va vous dire une chose pour la 10e fois. Bon, mais c'est, après tout, personne n'a à juger. Mais c'est quand même important de dire, tiens, ça fait la 10e fois que le Seigneur me redit ça. Il faudrait peut-être que j'écoute, oui ou non? Si dans la semaine vous aviez lu par un Matthieu 11, versets 28 à 30, si quelqu'un vous a dit, mais reçois les instructions, si par hasard le pasteur de votre assemblée ce matin reprenait ce sujet, vous pourriez dire, mais il radote tous. Ou alors vous pourriez dire peut-être avec un peu plus de sérieux, il faudrait que j'apprenne ou que je réapprenne à recevoir les instructions du Seigneur. Vous avez vu? Vous avez vu cette instruction? Verset 28. Relisez-le avec moi. Vous l'avez lu 100 fois, je le sais. Mais ce n'est pas grave. Venez à moi, vous tous. Venez à moi, si on synthétise le verset, venez à moi et recevez mes instructions. Vous avez dit au verset 28. Venez à moi, verset 29. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous recevoir les instructions? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous venir à Jésus? Est-ce que venir à l'église, ça veut dire la même chose que venir à Jésus? Mais non, ça devrait. En vérité, ça devrait dire la même chose. Mais si je viens à Jésus et que je n'accepte pas ses instructions, mais c'est exactement comme si je ne venais pas à Jésus. Venir à Jésus pour faire après ce que je veux, parce que moi, je fais ce qui me plaît. Moi, je ne suis pas un mouton de panurge et on ne me dictera pas ma conduite. Si vous raisonnez comme ça, c'est comme si vous ne veniez pas à Jésus. Vous pouvez être là ce matin, si dans une heure, vous faites ce que vous avez envie de faire parce que ce que vous avez envie de faire est plus important que ce que Dieu vous demande, c'est exactement comme si vous ne veniez pas à Jésus, même si vous êtes là fidèlement tous les dimanches. Venir à Jésus pour discuter? Moi, vous savez que c'est une chose avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal. En tant que pasteur, c'est certainement un manque de patience, je le reconnais maintenant, ça y est, j'ai compris. Les gens qui entendent une instruction et qui la discutent. Oui, mais si vous étiez à ma place, vous parleriez autrement, certainement. Je pense que, je n'ai pas été toujours à la place des gens, mais je pense que tous, nous avons eu nos épreuves qui nous permettent quand même de sonder notre cœur. Tous, on a eu des épreuves, tous. Et on sait très bien, dans les épreuves peut-être les plus difficiles, comment nous avons réagi à une instruction. Venir à Jésus, entendre une instruction, comme ça va être le cas, pour oublier de suite, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'entendre une instruction là, pendant les 3 quarts d'heure qui nous restent et d'arriver à la maison et d'avoir déjà tout oublié? Est-ce que c'est possible? Ben oui, si notre cœur est fermé. C'est exactement comme de l'eau qui coule sur les plumes d'un canard, ça le mouille pendant un temps, puis je peux vous dire que l'intérieur est sec. Et on a entendu ce matin une prophétie qui nous rappelait l'importance d'une personne qui ne fait que se plaindre, que gémir, que se plaindre, que gémir, et pas parce que ton cœur est fermé. Mais c'est évident. Quelqu'un qui a un cœur fermé, il ne peut que se plaindre et que gémir et que râler en continu. Ça ne peut pas être plus clair. Mais en tous les cas, s'il y a bien quelque chose de clair, c'est l'invitation du Seigneur. Venez à moi et recevez mes instructions. Il n'a pas dit « apprenez par cœur ». Moi, je fatigue les stagiaires en leur disant « il faut apprendre des versets par cœur ». C'est vrai que quand on apprend des versets par cœur, ça nous permet de... Le Saint-Esprit a de la facilité à nous les faire revenir à la cervelle. Ce n'est pas écrit dans la Bible que le Saint-Esprit nous rappelle ce qu'on a appris. Bon, mais ce n'est pas parce que vous allez apprendre des versets par cœur ou qu'on va apprendre des versets par cœur qu'on va être plus spirituel que les autres. Vous le comprenez bien. Jésus n'a pas dit, « Oh, ceux qui ont une bonne mémoire, ils vont avoir le repos. » Peut-être que vous avez une très mauvaise mémoire. Vous vous en souffrez de votre mémoire. Peut-être vous dites, oh, mais j'ai pas de mémoire. Je lis un texte, le lendemain, j'ai oublié. C'est pas une question de mémoire. Mes frères et sœurs, jamais Jésus a dit, il vous sera fait selon votre mémoire. Les intellos ont un avantage considérable sur les analphabètes. Non. Jésus n'a jamais dit ça. Ce n'est pas parce qu'on apprend par cœur, ce n'est pas parce qu'on a de la mémoire que l'on reçoit les instructions. Ce n'est pas parce qu'on est plus instruit que quelqu'un d'autre, on peut être plus instruit. Est-ce qu'il y a des gens instruits? Est-ce que ça fait d'eux des gens intelligents? Pas forcément. Certains, on peut tout concilier, ça c'est sûr. Il ne dit pas, voilà, mes instructions, analysez-les pour savoir si elles sont bonnes, si elles correspondent à votre besoin. Non. Recevez mes instructions. Comment vous le comprenez-vous, ce mot? Souvent, je vous dis, tiens, ce mot, ça veut dire ceci, parce que des fois, on a une idée peut-être préconçue. Comment comprenez-vous, recevez mes instructions? Si vous deviez écrire, voilà, quelqu'un à qui vous avez donné une Bible, il vous écrit, il vous dit, voilà, j'ai lu Matthieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, recevez mes instructions? Et réponds-moi, s'il te plaît, qu'est-ce que vous lui répondriez? Accepter ce que Dieu dit. Voilà, voyez de suite, obéir et ne pas oublier. Obéir, mettre en pratique. Voyez, on s'appliquerait, on dirait, mais c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire recevoir les instructions? Je ne sais pas, quand Jésus a prononcé cette parole-là, il y a un groupe de frères et sœurs dans cette église, je pense que nous sommes, pour ainsi dire, tous acquis à la cause du Seigneur. Vous aimez tous le Seigneur? Oui, mais le jour où Jésus a prononcé cette parole, je ne suis pas sûr que toute la foule qui était là était acquise à la cause de Jésus-Christ. Il y avait dans ce groupe tout un tas de gens, des gens justement instruits, peut-être des analphabètes, peut-être il y avait des riches, des pauvres, peut-être il y avait des malfaiteurs, peut-être qu'il y avait des gens pieux, il y avait toutes sortes de gens, des religieux, des militaires, des laïcs, des officiers, peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, toutes sortes de clochards, je ne sais pas, ceux qui étaient pour Jésus, ceux qui étaient contre lui, etc. Mais je ne sais pas comment ils ont réagi. En tous les cas, Jésus, dans sa bonté infinie, avec des majuscules, comme vous voudrez, a dit, venez à moi, vous tous. Quelle grâce! C'est pas une grâce, ça? Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient là pour les piller, pour dire, mais qu'est-ce qu'il va dire? C'est celui qui se prend pour un prophète, parce qu'on a dit de tout sur Jésus. On a été jusqu'à dire qu'il faisait l'œuvre de Satan. Et je suis certain qu'au fond, il y en avait certains qui devaient le dire, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et Jésus dit, venez à moi, vous tous. Moi, je trouve ça... Nous, on aurait pu dire, écoute, tous, sauf les trois au fond, là, qui sont en train de se moquer de moi, hein, vous pouvez repartir, mais les autres, vous êtes... Venez à moi, vous tous. Ce matin, vous avez dit, mais monsieur Gou, ça fait 100 fois que je lis ce texte. Je sais. Mais est-ce que nous pouvons dire, je reçois avec mon âme vraiment les instructions du Seigneur, venez à moi. Vous l'avez entendu 500 fois, 1000 fois en évangélisation. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est un message d'évangélisation. Ah oui? Alors comment cela se fait-il que tu es toujours chargé, alors que tu as un Dieu qui te propose de te décharger complètement de tous tes fardeaux au siècle des siècles, qui que vous soyez? Venez à moi, c'est une grâce d'entendre le 23 novembre 2014, venez à moi. Vous savez qu'un jour, parce que peut-être il faut le mettre en opposition, vous savez qu'un jour, le Seigneur Jésus dira à des croyants, retirez-vous de moi. Alors moi je le dis volontairement, je pense que c'est bien de mettre en opposition, venez à moi, pour que ça prenne toute cette valeur extraordinaire de l'invitation. Vous avez envie d'entendre? Retirez-vous de moi. Et ça, c'est dit à des responsables d'église, apparemment, à des chrétiens utiles, qui ont dit à Jésus, mais nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri, nous avons imposé les mains malades. Ils ont été guéris, et Jésus va leur dire, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que Dieu avait honoré son nom, je ne vais pas prendre le temps de le réexpliquer. Que de chrétiens fatigués. Le monde va être de plus en plus angoissé. Je pense que je vous apprends rien. Mais il y en a un qui s'acharne à vouloir que les chrétiens soient fatigués et chargé. Vous savez, le Seigneur, il vous connaît. Il sait ce qui se passe dans votre cœur. Est-ce qu'il lit dans votre cœur, le Seigneur? Est-ce que ce matin, il peut prendre n'importe quel d'entre nous et dire, voilà ce que je vois dans ta vie. Est-ce que ça vous fait du bien? Ben oui, pourtant, bon, il y a les défauts, les faiblesses, les manquements, tout ça. Bon, il le sait, il le sait. Mais le Seigneur, il lit, comme il lisait dans le cœur de toute cette foule. Vous tous, on est dans la grâce et Dieu ne fait aucune distinction de personne. Mais cette invitation, vous devez la prendre avec beaucoup de sérieux. Je sais que des pasteurs m'écoutent, ou m'écouteront, par le biais de l'ordi ou par le biais des MP3. Et j'espère que vous, les pasteurs, vous n'êtes pas en train de dire qu'est-ce qu'il va nous apprendre cette fois-ci encore. Est-ce que vous recevez les instructions? Parce qu'un pasteur, c'est vrai que des fois, le piège d'un pasteur, c'est quand on écoute un autre pasteur prêcher, on écoute la façon dont son sermon est construit, l'introduction, les points de développement, la conclusion, etc. Est-ce qu'il prêche bien? Est-ce que c'est bien construit? Écoutez-moi, les pasteurs, ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de l'invitation. Est-ce que vous êtes vraiment avec Jésus-Christ? Ça, c'est important plus que la construction du sermon. Oui, Jésus lit dans notre cœur, il sait ce qu'il dit. Même s'il nous le dit pour la 50e fois, vous qui êtes fatigués et chargés. Il y a des chrétiens qui sont fatigués, ils sont pris comme un pli. Vous savez, c'est comme un handicap. Ils ont pris l'habitude d'être fatigués, d'être chargés, d'être angoissés. Ils ont pris cette habitude. D'ailleurs, on le voit, ça va? Ben, il faut le faire aller. Je ne crois pas que ça glorifie le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des moments où on peut dire « je suis dans l'épreuve ». Mais je sais aussi que le Seigneur est avec moi. Parce que quand on parle comme ce dont je viens de vous dire, on parle comme les païens. Et je crois que les gens, ils ont besoin d'entendre autre chose. Je le crois. Il sait pourquoi vous êtes fatigué, chargé. Je répète, pas de cette fatigue normale, parce que vous avez passé une semaine à bosser fort, vous êtes peut-être fatigué physiquement, vous avez mal aux reins, vous avez mal à une jambe, vous avez mal au dos, parce que vous avez porté des meubles. Je ne sais pas. Parle pas de cette fatigue-là, vous le comprenez. Il sait si on est fatigué et chargé, tout simplement. Parce qu'on est venu à l'église, mais on n'est pas venu à Jésus. On est venu dans le temple, mais on n'a pas écouté l'instruction. On a peut-être eu le culot de dire, mais ça, je le connais par cœur. Mais ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Combien de chrétiens sont fatigués, chargés pour la simple et unique raison qu'ils n'ont pas pris au sérieux les instructions? Vous l'avez lu, c'est une chose de venir à Jésus. Ça n'est une autre de recevoir les instructions. Et le fardeau n'est ôté, le joug du Seigneur devient léger que quand on a accepté Jésus et reçu ses instructions. Ce matin, je le sais, je le sens, je le ressens. Dieu veut te donner du repos. Vous entendez, frères et sœurs? Toi, tous. Qui recevra le repos? Qui va vraiment prendre le repos? Prenez mon joug. C'est pas un joug qui va vous écraser. Je pense qu'il y a un joug du monde, un joug satanique, qui lui écrase le monde. Mais le joug du Seigneur, c'est un joug léger, parce que ça veut dire que c'est lui qui marche à côté de vous. Alors qui, ce matin, reçoit cette parole? Viens, je veux te donner du repos. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux du repos? Oui, si tu dis oui, il est certain que le Seigneur, maintenant, si ce n'est pas maintenant, ce sera peut-être ce soir dans ton culte personnel ou demain, il y aura une parole qui va te procurer de repos. Parce que cette invitation, elle s'adresse à tous. Venez à moi, vous tous. Je ne peux pas dire ce matin, ah toi, tu es rétrograde, ça fait 10 ans que tu n'es pas venu, mais tu te moques de Dieu. Oui, nous on a nos idées. Mais justement, toi qui reviens au Seigneur, la porte est ouverte. Il y a une parole de Dieu pour toi. Nous, on a vite fait de mépriser les gens parce que nous, on aurait aimé que les gens fassent ainsi ou fassent de cette façon. Mais le monde, vous avez vu le monde dans lequel on est. Et laissez-moi vous dire que ça ne, vous le savez, je le dis souvent, ça ne va pas s'arranger. Vous savez, quand il est dit que c'est Jésus qui parle, il en sera de même du temps comme du temps de Noé. Et quand vous lisez la Genèse, chapitre 6, il est dit que toute chair avait corrompu sa voix.
toute chair. Et Jésus a dit, il en sera de même. Ça fait que tous les scandales que vous voyez au niveau politique, au niveau sportif, et tout ce qu'on ne voit pas. Toute chair avait corrompu sa voix. Donc vous pouvez vous attendre, à part ceux qui vont obéir à Dieu, les véritables chrétiens qui vont se sanctifier, eux, bien sûr, ils ne vont pas corrompre leur voix. Ils vont sanctifier leur vie. Mais nous sommes dans un monde de corruption parce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils du Seigneur. L'autre jour, je vous lisais un extrait du psaume 107, mais on va en relire un autre verset. Dans le psaume 107, justement. Et il nous est parlé de ceux qui ont méprisé les instructions. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Psaume 107, verset 10. Combien je vous encourage parfois à méditer qu'un verset. C'est pas un truc que je vous enseigne. Vous pouvez tout méditer des chapitres en entier. Mais des fois, la méditation d'un verset nous permet de prendre conscience de certaines choses. Psaume 107, verset 10. Regardez bien. Psaume 107, verset 10. « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Voilà pourquoi ils étaient dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la misère, dans les chaînes. Ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. À Noël, on cite souvent le verset d'Ésaïe, là, quand il est dit, on l'appellera conseiller, Père éternel, conseiller, conseiller. Qu'est-ce que je fais des conseils? Même si c'est la 21e fois que Dieu vous l'adresse. Vous devriez avoir, nous devrions, avoir cette humilité et dire, Seigneur, c'est pas le pasteur qui se répète. C'est toi, dans ton amour, qui me rappelle qu'il faut que je prenne au sérieux ces instructions, parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux les instructions du Seigneur, ils les ont méprisées. Méprisées, je vous l'ai dit dimanche dernier, ça veut dire qu'on attache peu de prix. Voilà, tu m'as donné ça, oui, bon, merci. Merci. Il y a des choses, ce sont les mêmes choses, mais on attache. Vous savez, moi, si un enfant de l'église me donne un dessin, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Monsieur, vous tenez un petit dessin avec. Mais quand c'est ma petite fille ou mon petit-fils qui me donne un petit dessin, papy Gérard, je l'accroche dans mon bureau. Ça a de la valeur. Autant qu'un Picasso, je ne sais pas. Mais à peu près pareil. Oui. Il y a des choses qui ont du prix. Parce qu'on sait de qui ça vient. Mais ce qui vient du Seigneur, on sait d'où ça vient. Vous avez vu dans ce saint livre la quantité d'instructions que le Seigneur nous adresse? Ça ne vous touche pas? Ça ne vous touche pas? Vous lisez un verset, vous voyez la miséricorde de Dieu. Vous en lisez un autre, vous voyez la sévérité du Seigneur peut-être. Mais ce n'est pas une grâce à cause de l'iniquité? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Comment vous le recevez ce verset? Vous savez que c'est vrai, c'est une prophétie. Eh bien, vous allez dire, oh Seigneur, mais moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont se refroidir. Au contraire, je vais me ressaisir afin de ne pas faire partie de ceux qui vont se refroidir, être sur le carreau lorsque tu vas revenir nous chercher. N'importe quel verset de la parole de Dieu, on devrait le considérer comme quelque chose de sérieux. Si quelqu'un vient à moi, dit le Seigneur, il sera libre, réellement libre. Vous le croyez, ça? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais Seigneur, mais touche-moi par ta parole. Si le pasteur doit répéter 200 fois le même verset pour que ça finisse par rentrer, eh bien, fais-le, Seigneur. Donne-lui cette humilité, justement, d'avoir le courage de répéter 100 fois le même texte pour qu'enfin, comme un marteau qui enfonce un clou, enfin ça soit enraciné. Mes frères et sœurs, comment ce matin je suis venu dans la maison du Seigneur? Je suis venu en disant, oui, je viens parce que je t'aime, Seigneur, je viens, je vais repartir à midi, je vais me retrouver dans la même situation. Non! Le Seigneur a une parole pour délivrer si vous êtes captif. Le Seigneur a une parole pour vous guérir si vous êtes malade. Combien font des simples allers-retours à l'église? Reviens, c'était bien, oui, c'était bien. Ça t'a fait du bien? Ouais, bof. Ouais, c'était bien. Comment vous réagissez face aux instructions du Seigneur? Combien, comme Jésus l'a dit dans une parabole, croient pour un temps? Combien se font piéger? Toutes les paroles du Seigneur, toutes, de Genèse 1 à Apocalypse 22, à la fin, toutes les paroles du Seigneur sont utiles. C'est sûr que si vous commencez à douter au premier chapitre du livre, comme ça a été le cas, au chapitre 3, c'était pas le chapitre premier, mais enfin, bon, c'était presque pareil. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça reste ça. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden, mais votre cœur, on peut le comparer à un jardin. Oui ou non? Est-ce que c'est biblique? Oui. Et le serpent, il sait, si on ne veille pas venir dans notre jardin et nous dire, mais oui, mais tu vois, regarde, les scientifiques, ils disent que c'est pas vrai. Il a fallu des milliards d'années. Et la Bible dit, le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Tu vas pas croire aux ces âneries. Si vous commencez à douter au premier verset du premier chapitre de la Genèse, je peux vous dire qu'est-ce que ça va être au troisième livre. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Que ce soit des jours de milliards d'années ou que ce soit un jour de 24 heures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pas la peine d'aller à 511 millions de kilomètres pour percevoir un peu de calcaire ou de glace, pour avoir une petite idée comment, d'où on viendrait. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous le croyez? Et lorsqu'on commence à douter, parce que le diable, dès le début, pourtant Adam et Ève, ils étaient dans un contexte méga favorable. Voyez. Mais toutes les paroles du Seigneur devraient nous édifier, nous convaincre. C'est écrit que toutes ces choses ont été écrites pour nous convaincre, pour nous consoler. Vous voyez, Rachel a refusé la consolation. Et je perçois dans mon esprit que beaucoup de chrétiens, même si vous entendez, vous refusez. Parce que vous dites, mais je l'ai entendu 100 fois et ça n'a pas marché. Mais c'est sûr, si 100 fois vous remplissez une bouteille fermée, ça ne marchera pas. Elle ne se remplira jamais. Il faut que le cœur soit ouvert. Nous sommes dans un monde malade. Je voudrais dire certaines choses par rapport à des sujets de société, mais ça, je vais trop déborder. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que ça va aller mal. Ça va vraiment aller mal. Et seront gardés, tous ceux qui entreront dans le repos, seront gardés, tous ceux, mais c'est pas un scoop, hein, tous ceux qui gardent la parole. Si tu gardes la parole, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai en dehors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Est-ce que vous réalisez ce qu'est une parole du Seigneur? Ou est-ce que vous dites, mais moi je l'ai lu la Bible, je connais ces textes. Ah oui? Une parole du Seigneur. Vous savez jusqu'où Jésus a été, pour qu'on comprenne que chaque parole du Seigneur est sérieuse. Jésus a été jusqu'à dire, quand il parlait des temps de la fin, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est pour vous donner une idée du poids que Jésus a voulu donner à la parole. Elle est éternelle. Le monde dans lequel nous sommes, il est éphémère. Oui ou non? Même s'il y aura 1000 ans où Jésus va régner sur la terre après l'enlèvement de l'Église, etc., etc., s'il reste encore 1000 ans à cette terre, heureusement qu'on aura un roi qui tiendra debout. Mais laissez-moi vous dire que le ciel et la terre passeront. Il ne restera rien. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Hier, je lisais le psaume 107 par rapport à ce verset qu'on a lu, je lisais le psaume 108, quand il est dit, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Voilà. Vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Voilà. Dieu triomphera. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Dieu triomphera. Ce matin, je lisais justement l'histoire de la venue de Jésus, quand Hérode a voulu le tuer. Vous avez vu? Dieu sait ce qu'il fait. Le problème, c'est que comme pour Nebuchadnezzar, vous vous rappelez Nebuchadnezzar, qui, comme on dit aujourd'hui, se l'a joué parce que c'était le roi. Il a fallu qu'il passe pendant 7 ans d'épreuves un petit peu difficiles, puisqu'il ressemblait à un animal, il a laissé les ongles pousser, il mangeait de l'herbe. Le gars vraiment fou. Jusqu'au jour où la raison lui est revenue, et qu'il s'est mis à reconnaître que Dieu sait ce qu'il fait. Vous le lirez dans Daniel, et chaque parole est éternelle. Bon, les traductions, c'est vrai qu'on peut parfois houspiller sur certaines traductions, mais en fait, d'une manière générale, toute la parole de Dieu elle est éternelle. Vous le croyez, ça, mes frères et sœurs? Vous avez entendu ce matin. Jésus a dit, nul ne les ravira de ma main. C'est plus fort que tout ce que vous pouvez voir sur la terre. Parce que la parole de Dieu, elle est éternelle. Est-ce que vous le croyez, ça? C'est Jésus, c'est éternel. Nul ne les ravira de ma main. Je ne sais pas comment vous l'avez écouté. Comment vous l'avez écouté, ça, tout à l'heure? Ah, c'est qu'un stagiaire qui explique un verset biblique. Ce n'est pas un stagiaire. C'est la parole de Dieu. Nul ne nous ravira de sa main. C'est plus fort que la terre et le ciel. Les montagnes, vous avez vu, des fois, on met en avant dans certains reportages, certains monts, on dit, oh, ce mont-là, il fait 2000 mètres. Eh bien, écoutez, je suis désolé, il est beaucoup plus fragile que la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Vous le croyez vraiment, mes frères et sœurs? Quand nous lisons la parole, nous devrions être vraiment sérieux. Et dire, oh, mais j'ai besoin de ce verset. J'ai besoin de réentendre. Je comprends pourquoi Jésus a dit un jour, vous savez, il prêchait dans une foule, et il y a une femme, je crois qu'il a dit, oui, une femme, qui a dit, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureuse le sein qui t'a porté. C'était bien. Est-ce que c'était bien? Oui, bon, oui, c'était bien, elle a bien fait, moi je trouve qu'elle a bien fait. Et puis Jésus a dit, non, non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourtant, avoir enfanté le Messie, avoir allaité le Messie, je ne sais pas, mes sœurs, mais quand même, c'était un truc de bien, oui ou non? Mes sœurs, répondez. Est-ce que c'était quelque chose de porter sur son sein le Messie, d'avoir élevé le Fils de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? C'était quand même pas mal. Et le Seigneur Jésus dit, non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Pourquoi? Il y a quelque chose de plus grand que d'avoir porté le Fils de Dieu. Pour les femmes, ça devrait vous secouer. Il y a quelque chose de plus grand que d'avoir allaité le Fils de Dieu. C'est d'écouter la parole et de la garder. Mais nous sommes dans les derniers temps et nous sommes vraiment dans les dangers. Les gens n'acceptent plus. Vous connaissez, on va le lire dans, on a le temps, dans 1 Timothée au chapitre 4. Le Saint-Esprit dit qu'il se passera certaines choses dans les derniers temps. Et on y est. Mais je peux vous dire qu'on y est. Croyez-moi qu'on y est à fond dans ce que l'apôtre Paul a. Il y a 100 ans, peut-être, il devait dire, bon, l'apôtre Paul, il était... Je comprends pourquoi des théologiens ont dit que l'apôtre Paul n'était pas inspiré, qu'il était sévère, qu'il était trop dur par rapport à certains de ses récits. Ces théologiens seraient aujourd'hui sur la terre, je crois qu'ils changeraient le fusil d'épaule. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément, oui, c'est sérieux, que dans les derniers jours, tiens, j'en profite, les derniers jours, vous savez, moi, l'autre fois, j'ai entendu un spécialiste de la religion en France. Ça m'a énervé un peu. J'aurais aimé lui parler. Les derniers jours, il parlait de Jésus qui a dit à la fin, « Je viens ». Vous savez que l'avant-dernier verset de la Bible, c'est « Oui, je viens bientôt ». C'est Jésus qui parle. « Je viens bientôt ». Alors, le spécialiste disait, « Il vient bientôt ». Mais qu'est-ce que c'est ces paroles? Mais qu'est-ce que c'était ce Seigneur Jésus? Ce Jésus, ce faux Messie? Enfin bon, il a dit des choses que j'aurais aimé lui expliquer. Si Jésus a dit « Je viens bientôt » il y a 2000 ans, c'est qu'il vient, aujourd'hui on pourrait dire, il vient très 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 bientôt. Si ça correspond à 2 jours, puisque 1000 ans correspondent à 2 jours, moi je pense qu'on pourrait dire, si Jésus avait dit « Je viens dans 2 jours », vous me suivez? On pourrait dire aujourd'hui, je viens, dans quelques minutes. Ça tient debout ce que je dis. Je réfléchis ça. Ça tient debout. Oui, on continue. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, c'est-à-dire la parole, la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, ça vous dit rien ça? Et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On est dans ces temps des doctrines de démons. Vous savez que le mariage homosexuel, c'est une pratique luciférienne. Ça existait déjà, nous ça nous tombe dessus là, mais ça existait déjà. Alors là je ne veux pas entrer dans le détail parce que ce serait trop long. Mais mes frères et sœurs, ce sont des doctrines de démons. Oh non, ne nous prêchez plus sur l'enfer. Ne nous prêchez plus. Monsieur Gros, il ne faut plus prêcher sur la sanctification. Ça fait peur aux gens. Ne parlez plus de repentance. Les gens, ils ont besoin d'autre chose. Les gens de l'extérieur, ils ont besoin d'amour. Ils ont besoin d'affection. Bien sûr, mais il n'y a pas que les gens du dos. Hein. Nous aussi, on a besoin d'affection. Mais je fais la différence entre toutes ces choses. Ne parlez plus de l'enfer. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Peut-être que, j'espère qu'il n'y en a pas. Mais peut-être qu'il y en a eu, s'il y en a eu. Des gens qui sont partis, qui m'ont dit, monsieur Gros, vous avez tort, c'est pas comme ça que votre église se remplira. J'ai dit, mais moi, on ne cherche pas à remplir l'église. On honore la parole. On honore la parole de Dieu. Et celui qui se détourne de la saine doctrine, il se détourne de la foi, et quelqu'un qui se détourne de la foi, il se détourne de Dieu. Même s'il va à l'église. Et nous devons aimer les instructions, même si ce matin, je vais vous en donner pour terminer 3 ou 4 que vous connaissez par tête, que vous connaissez dans votre cerveau. Par tête, oui. Est-ce qu'elles sont dans la tête ou est-ce qu'elles sont dans le cerveau? Est-ce qu'elles sont dans la tête ou est-ce qu'elles sont dans votre âme? Ce matin, on a chanté, on va le mettre, Jésus, tu es précieux. On l'a chanté ce matin, on va le chanter pour terminer. Voilà. C'est tout. Voilà, top. Vous l'avez chanté? Père, Jésus, tu es si précieux pour moi. Jésus, tu es si précieux pour moi. Bon, Dieu qui dit dans les cœurs a vu comment nous l'avons chanté. L'avons-nous chanté avec la tête? Le cerveau, parce qu'on l'a appris. Ou l'avons-nous chanté de toute notre âme? Seigneur, mais c'est vrai, tu es précieux pour moi. Il y a des gens, oui, tu es précieux, mais enfin, le comportement, les propos, etc., et les réactions prouvent bien qu'il n'est pas si précieux que ça. Il faut quand même se sonder. Rappelez, à la dernière église, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, etc. Dans l'illusion de beaucoup de chrétiens qui ne savent pas dans quel état ils sont. Mais comment entendons-nous la parole de Dieu? Comment chantons-nous? Vous chantez avec le cerveau? C'est sérieux, c'est ce que je vous dis. Il est beau ce cantique? Il est magnifique, la mélodie. En plus, on a des cantiques qui font que la mélodie, parfois, des fois, tellement belle que ça nous empêche de saisir vraiment la portée du message. Ça arrive, il y a beaucoup de cantiques comme ça. Mais bon, c'est bien. Mais combien de fois j'ai entendu, par exemple, ne vous inquiétez de rien. Ça vous fait rire, certains. C'est vrai qu'au début, vous avez dû penser que j'avais que ce message dans le cœur. C'est où ça? Ne vous inquiétez de rien. Philippiens. On va le lire. Vous savez, quand je suis arrivé, donc il y a 16 ans et demi, j'ai fait, je crois, 7 ou 8 jeudis, où j'ai pris ce verset. Et il y avait une sœur. Elle est là, Madame Fabio, ce matin? Elle est là? Non? Elle n'est pas là. Elle m'a dit qu'elle vous donnerait un témoignage. Mais je lui laisserai le temps de le donner, elle. Si elle avait été là, elle m'avait dit qu'elle le donnerait. Par rapport à ce verset, justement. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Vous, les pasteurs qui m'écoutez, est-ce que vous vivez ces choses? Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Bon, vous partez du principe où le ciel et la terre passeront, que la parole de Dieu ne passera pas? Bon. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Point. Ou il y a autre chose après? Virgule. Avec des actions de grâce. Tiens donc. Des actions de grâce. Merci. Ah mais je dis merci, monsieur Gourmand. Vous savez, quand je rends grâce, vous inquiétez pas. Hein. Chaque fois que je prends mon repas, en famille, on rend grâce. Mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je rends grâce parce qu'on m'a dit qu'il fallait rendre grâce? Ou est-ce que je rends grâce avec mon cerveau? Ou est-ce que je rends grâce avec mon cœur? Il faut qu'on réponde. On est capable de dire un merci. Vous sortez dans la rue, vous dites à quelqu'un, tiens, il me faut aller au Capitole, est-ce que vous pourriez me dire l'adresse? Je ne sais pas y aller. Voilà, et bien, peut-être il va même vous l'écrire. Mais tenez, vous allez tout droit jusqu'à la place du Salin, à la place du Salin, vous continuez à gauche, etc., etc. Il va vous dire, tenez, monsieur, voilà, pour aller au Capitole, c'est comme ça. Vous en avez pour un quart d'heure en vélo, une demi-heure à pied. Qu'est-ce que vous allez faire? À un étranger, je parle d'un étranger. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci, monsieur, merci, merci. Oui ou non? À un étranger qu'on ne connaît pas, qui nous a donné un renseignement, merci, monsieur, merci, c'est sympa. Et à notre Dieu, on va lui dire merci avec le cerveau. Tout à l'heure, on va peut-être prendre un repas. Je ne sais pas si vous savez que vous écoutez les infos comme moi. Vous avez vu la quantité de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas de toilette, qui meurent toutes les minutes. Il y a deux enfants qui meurent de faim sur la terre à cause de ceci, à cause de cela. On va rentrer tout à l'heure. Seigneur, merci. Merci pour le repas. Merci, Seigneur. Merci de bon cœur. Merci, merci beaucoup. Puis les frites vont arriver. Elles sont un peu plus brûlées que d'habitude. Et alors, tu ne sais pas les faire, les frites? Mais franchement, hein. T'es bien comme ta mère. Non, mais ne riez pas. Parce qu'on a vite fait. Ben, c'est sûr que c'est bien quand les frites sont. J'espère qu'à midi, le repas sera bien. Mais mes frères et sœurs, comment je rends grâce à Dieu? Parce que c'est sérieux, cette affaire. Ne vous inquiétez de rien. Priez avec supplication. Parce qu'il y a des sujets, ça indique qu'il faut supplier Dieu. Quand quelqu'un de malade dans la famille, eh bien, c'est pas juste une requête, c'est une supplication. Oui ou non, il y a toutes sortes d'intensités dans la prière, et c'est bien. Mais il devrait y avoir continuellement dans notre bouche les actions de grâce. Garde-toi d'oublier l'Éternel lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasiras. Mais mes frères et sœurs, n'oublie pas de bénir Dieu si tu as une église. Oui ou non? Si tu as une Bible dans ta langue. Il y a des chrétiens, ils n'ont pas de Bible dans leur langue. On pourrait multiplier les exemples. Je veux dire merci du plus profond de mon cœur pour chaque instruction que je vais lire. Seigneur, je veux te dire merci. Vous savez, quand on dit merci, ça plaît au Seigneur. Seigneur, merci de me rappeler ce matin. Ne vous inquiétez de rien. Moi, je vous dis que le chrétien qui dirait, oh, j'aurais aimé entendre autre chose. J'aurais aimé entendre une prédication qu'on n'a jamais entendue. J'aurais aimé qu'il nous prêche sur la nouvelle cité céleste. J'aurais aimé qu'il nous prêche sur la Jérusalem céleste. Si vous n'y allez pas, la Jérusalem céleste, il vaut mieux peut-être que vous soyez sûr d'y aller. Que vous soyez enraciné, fondé, établi dans la foi. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez forts, mes frères et sœurs. Les temps que nous vivons ne nous autorisent pas à être des chrétiens légers. À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous savez toutes les prophéties, et Jésus a même dit que s'il n'abrégeait pas certains jours, même les élus seraient en péril. Vous voulez être solide? Vous voulez être solide pour Dieu? Vous ne répondez pas? Vous voulez être solide pour le Seigneur? Eh bien, remerciez-le. Remerciez le Seigneur. Tu me rappelles par la bouche de ton serviteur ce verset inébranlable. Plus fort que la terre et les cieux, ne vous inquiétez de rien. C'est Jésus qui l'a dit. L'apôtre Paul le reprend, mais c'est Jésus qui l'a dit. Ne vous inquiétez de rien. Beaucoup écoutent, mais dans 2 heures, vous allez vous inquiéter. Vous allez vous inquiéter parce que vous allez voir aux infos, on a dit ça qui s'est passé dans l'est de la Turquie ou qui s'est passé ça en Algérie. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on continuera à redresser notre tête parce que notre délivrance approche. Et que Dieu nous gardera. Il l'a dit, je te garderai de tout mal. Mais vous le croyez ça ou vous ne le croyez pas? Mes frères et sœurs, il faut que j'insiste. Dieu vous gardera de tout mal. Si vous restez à l'abri, si on reste dedans, il peut pleuvoir, il peut faire de la grêle, il peut faire ce qu'il veut. On est à l'abri. Oui ou non? Voilà, s'il pleut là dehors. Je ne sais pas combien il fait dehors, la température, on s'en fiche. Il fait bon dedans, s'il pleut, s'il grêle, on s'en fiche. Je me rappelle, il y a un dimanche, il y a 2 ans, de quoi on est sorti, tout était blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tout était blanc. Personne ne s'en est rendu compte. Mais quand on est à l'abri, la Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il est à l'abri. Et mais combien de fois vous l'avez entendu? Combien de fois de l'estrade, en lisant votre Bible, par l'onction du Saint-Esprit, Dieu vous a dit, ne t'inquiète de rien. Ce sont des ordres. Oh, les ordres de Dieu, monsieur Goujana, c'est au boulot des ordres. Ah ouais, vous allez faire la différence, vous allez pas savoir faire la différence entre l'ordre du patron, qui en plus est peut-être une bénédiction, parce que Dieu est peut-être en train de vous éprouver. Ouais. Acceptez. Beaucoup écoutent, a dit Jésus, et ne mettent pas en pratique. La maison bâtie sur le roc, la maison solide, c'est Jésus qui parle. Ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Beaucoup de gens, la parabole des fondements, elle a été expliquée, moi je trouve souvent pas très bien. Ceux qui sont enracinés sur le roc, ils écoutent, comme c'est le cas ce matin. Mais après, il n'y a que Dieu qui le sait, si vous vous mettrez à obéir. Si vous dites, oui, je viens, mais je reste avec toi. Parce que venir à Jésus et repartir, c'est, je l'ai dit au début, c'est exactement comme si on repartait. Je viens, j'écoute vraiment, j'écoute avec mon cerveau, parce qu'il faut que ça passe par ce filtre, mais ça va descendre dans mon cœur. Je choisis d'être consolé. J'ai besoin de guérison, Seigneur. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, je suis sérieux avec les conseils du Seigneur. Si vous avez une foi chancelante, si un jour vous êtes en haut, deux jours en bas, un jour en haut, trois jours en bas, et les chrétiens, vous les voyez, ils sont là. Monsieur Gau, j'ai fait une expérience formidable, formidable. Dieu a exaucé ma prière. Il est bon, le Seigneur. Vous les revoyez deux jours après. Ça va? Oh non, je suis découragé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je suis découragé. Voilà. Alors ça fait sourire parce que la façon dont je vous le dis, bien sûr. Quand Jésus dit « Venez à moi », ça veut dire « Restez avec moi ». D'ailleurs, ma prédication, je dis « Mais venez », le titre, tiens, pour celui qui met le titre, « Venez à moi, recevez mes instructions et restez ». Voilà le titre de ma prédication, il faut rester. Restez pas, ça ne veut pas dire qu'il faut rester jusqu'à dimanche prochain, mais c'est pas géographique, c'est spirituel, ça reste dans mon cœur, où que je sois. Quand Jésus a dit « Venez à moi », ça ne voulait pas dire que ceux qui étaient au fond, il fallait qu'ils viennent sur le devant. Vous comprenez? Ah, les gens spirituels, ils sont venus devant. Ce n'est pas ça, « Venez à moi ». C'est spirituel. Je peux être à le dernier au fond de l'église, je peux être le plus près du Seigneur, ça n'a rien de géographique. Mes frères et sœurs, est-ce que vous entendez l'appel de Jésus ce matin? « Venez à moi, vous tous ». Moi aussi, ça fait 10 ans que je me traîne, ça fait 10 ans que j'entends ces choses, mais le Seigneur, il va pas me rejeter. Ça fait 10 ans, peut-être que moi, je ne saurais pas comment vous parler. C'est fort possible, parce que moi, ça je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Mais c'est écrit. Et même si ça fait 10 ans que vous traînez la patte, le Seigneur, il peut guérir la patte ce matin. Est-ce que vous le croyez que le Seigneur, il peut guérir? C'est ça, mais Seigneur, je vais recevoir les instructions. Il faut que tu me donnes cette grâce de réaliser, quand même, quand Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais c'est pour qu'on soit sérieux. C'est sérieux. Tout ce qui est écrit est sérieux. Tout ce qui est dit quand Dieu a inspiré Esaïe, pour dire des choses, parce que je lisais Esaïe hier, Dieu n'a pas dit 3 siècles après, « Oh purée, j'ai fait dire ça à Esaïe. Oh, j'aurais pas dû. » Sa parole, elle est éternelle. Tout ce que Dieu a dit se vérifiera. Toutes les prophéties s'accompliront. Tout est éternel. La parole de Dieu, elle est éternelle. Nous sommes un souffle. C'est Moïse qui dit « Nos jours s'évanouissent comme un son. » Un son. Voilà, Béatrice sur le piano, elle fera un son. Ça dure 2 secondes. Un son. La parole de Dieu, elle est éternelle. Alors les conseils. On peut en lire un? Parce que je sais que Dieu... Moi, je ne l'aurais pas dit. Je ne l'aurais pas dit parce que je l'ai tellement dit que... Mais ce n'est pas grave. Je sais que Dieu veut que je vous le dise. 1 Pierre 5, verset 7. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous soyez sérieux, soucieux de comprendre que ça sort de la bouche de Dieu lui-même. 1 Pierre, bien sûr, il y en a qui le savent dans le cerveau. Peut-être même vous l'avez dit hier à quelqu'un. Peut-être que vous le direz demain à quelqu'un et vous aurez bien fait de le dire. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Qui ne connaît pas ce verset? En tous les cas, si vous venez ici depuis quelques mois, vous le connaissez. 1 Pierre 5, verset 7. C'est une parole de Jésus. Écoutez bien, parce que je sais que quelqu'un en a vraiment besoin. Mais bon, il y a ceux qui ont besoin que ça descende dans du cerveau dans la tête ou dans l'âme. Mais il y a quelqu'un qui en a vraiment besoin, je le sais. Hier, quand j'ai préparé cette prédication, je savais qu'il me faudrait insister sur la présentation de ce verset parce que quelqu'un a besoin de ce verset. 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur votre pasteur. Ah, pardon. Déchargez-vous sur le chrétien le plus spirituel de l'Église. Bon, allez, bon. Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. J'ai lu dans une autre version de vos fardeaux, de tous vos fardeaux. Écoutez-moi, voyez, je pouvais pas le faire parce que je pense pas que c'est possible. Mais si j'avais eu l'aplomb, peut-être la capacité de le faire, j'aurais parlé que de ce verset d'une façon concise. Parce que quelqu'un ne réalise pas que si vous vous déchargez de tous vos soucis, lui prendra soin de vous. Pensez à n'importe quel fardeau, dans n'importe quel cas de figure. Écoutez, là, je sais que je dois insister. Je le sais, le Saint-Esprit me l'a montré hier. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce verset d'une manière particulière. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Vous croyez que c'est plus important que la terre et le ciel? Oui. Est-ce que vous êtes capable de dire merci, merci Seigneur? Parce que je vous l'ai dit, quand c'est descendu dans l'âme, on dit merci. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous pouvez dire merci ce matin pour ce verset. Seigneur, ça fait 50 fois que M. Gou le répète et tu nous le répètes encore. Écoutez mes frères et sœurs, je vous en supplie. Parce que la bénédiction, c'est pas des méandres de complications. La simplicité de Jésus-Christ. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne vous inquiétez de rien, mais priez, suppliez, invoquez avec action de grâce. Il faut que ça descende. Il faut dire merci. Quand est-ce que c'est la dernière fois, je le dis sérieusement, que vous avez dit merci, pas avec votre cerveau, avec votre cœur? Peut-être c'est ce matin. Tant mieux. Mais vous savez, Dieu lit dans nos cœurs. Et quand on lui dit, mais Seigneur, merci, ça lui plaît. C'est comme ça. Dieu, il aime la reconnaissance. Quoique nous, on aime bien aussi quand quelqu'un nous dit merci. Il y a des gens, ils disent jamais merci. Si vous saviez ce que je pourrais vous dire de la part des chrétiens, une fois, quelqu'un était passé, je le dis pour vous expliquer combien il y a des gens qui ne vont pas bien. Quelqu'un dit, Monsieur Hugo, merci pour la prédication. Non, il fait son boulot. Je dis, oui, c'est vrai, c'est mon travail. Boulot, je pense que ce n'est pas tout à fait le mot. Mais moi, je crois que c'est une grâce de pouvoir aller à l'église et d'entendre le Saint-Esprit nous dire, oui, n'oublie pas. N'oublie pas de dire merci. Ça plaît au Seigneur. Il voit dans ton cœur comment tu vas rendre grâce tout à l'heure pour ci, pour ça. Pour l'essence que tu as pu mettre dans la voiture. Eh oui. Vous entendez, vous recevez et vous restez. Je termine avec, vous vous rappelez les deux disciples d'Emmaüs le jour de la résurrection, qui avaient fui Jérusalem et qui étaient là dans la froideur du doute avec leurs propos de plainte. Mais vous avez entendu la prophétie. Écoutez bien les prophéties. Parce que quand un cœur est fermé, le cœur il fait que se plaindre. C'est comme ça. Quand un cœur est ouvert, eh bien, il ne fait que remercier. C'est comme ça. Parce que Dieu a pu mettre quelque chose dedans. Et ces deux disciples, ils étaient là. Jésus les rejoint. Bien sûr qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est ce qui se passe bien souvent le dimanche. Le Seigneur, il est là, il nous rejoint, il nous parle. Mais nos yeux sont empêchés de le reconnaître. On est tellement bloqués par les problèmes. Et ah bon, était-ce qu'est-ce qui... Alors Jésus, il a fini de pas... quand il s'était présenté. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et t'es le seul à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé. Ils le regardent, ils sont complètement... Ils ne le reconnaissent pas. Ah bon, quoi? Jésus, quoi leur dit-il? Ah, ils sont là, ils sont catastrophés. Et nous espérions que si, et on pensait que ceci, et on croyait que... Et ce Jésus de Nazareth, on pensait que si, on pensait... Jésus les a laissés parler. Il aurait pu leur dire, arrêtez-vous, regardez-moi. Il les a laissés parler. Je pense que des fois, ça fait du bien quand même. Non? Mais à Jésus... Pas la peine d'aller voir Pierre et Jacques et dire, ah, il faut que je te parle, tatatitatata. Et puis le soir, le lendemain, confiez-vous à Jésus. Il les laisse parler. Et puis Jésus leur dit, mais ô homme sans intelligence, il ne fallait-il pas que... Et puis il commence à expliquer. Puis au bon moment, le soir arrive, le jour est sur le déclin, vous savez. Et Jésus paraissait vouloir aller plus loin. Mais eux ont dit, reste avec nous. Parce que c'est bien de venir à Jésus. Mais c'est quand même mieux de venir et de rester. Et vous devez pouvoir être capable de répondre sérieusement, là c'est sérieux. Est-ce que je viens à Jésus le dimanche matin pour entendre un sermon? Ou est-ce que je viens et est-ce que j'écoute et est-ce que je reste? Reste avec nous, reste avec nous, le soir approche. Moi je pense que le soir approche, que ça va faire très nuit bientôt. Très très nuit, très noir. Reste avec moi Seigneur, reste avec moi. Et donc Jésus est entré. Et il nous a dit que pendant qu'il prenait le pain et le vin, Jésus a rendu grâce. Bon, mais de sa bouche, on le voit souvent, lui rendait grâce. Toujours. Il ne dit pas, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus rendait toujours grâce. Reste avec nous. Et pendant qu'il partageait le pain, ce qui est l'image pour nous de la Sainte Cène, qui devrait chaque fois au moins nous faire réagir et dire, mais attends, mais attends, Seigneur, tu as donné ta vie. Et bientôt, on va être aux noces de l'agneau. On va prendre ce repas avec toi. La Bible parle des noces de l'agneau. Oui ou non? Reste avec nous. Et pendant qu'il rompait le pain, ils le reconnurent. Je ne sais pas si pendant quand Jésus a rompu le pain, qu'ils ont vu les mêmes. Je ne sais pas. Moi, je me suis fait tout un tas de films. Ça, ce n'est pas important. Mais une chose est sûre, ils l'ont reconnu. Et Jésus a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement enthousiastes qu'ils sont repartis à Jérusalem, là où ils devaient être, pour raconter ce qui s'était passé. Venez à moi, c'est bien. Restez avec lui, c'est quand même un peu mieux. Et c'est une chose à laquelle vous devez absolument répondre. Est-ce que je viens tous les dimanches tranquilliser ma conscience et que ce soit, ouais, il y en a marre, et ceci, et cela, et t'as vu ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'il va y avoir une troisième guerre? Oh oui, je sens qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale. Alors vous inquiétez pas, c'est pas pour de suite. C'est pas pour de suite. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Parce que celui qui vient à Jésus, qui reçoit les instructions, son joug est léger et son repos est vrai. Alors, venez à Jésus, venons à Jésus. Écoutons les instructions dans notre âme et restons avec lui. Et il nous gardera. Alléluia.